Bonjour à tous. Donc effectivement, je vous parlais d'un projet qui est intitulé « Quelles compétences transversales pour réussir à l'université ?» Donc moi, je suis enseignant à l'UFR Sciences de l'Homme de la Société, à Rouen, plus précisément au département de psychologie, et j'enseigne les neurosciences. Ce n'est pas toujours une matière qui est appréciée par les étudiants. Ils ne s'attendent pas forcément à retrouver des neurosciences dans le cursus de psychologie. Et c'est parfois une matière qui les plante un petit peu. Alors, le contexte du projet, c'est un constat un petit peu inquiétant là, sur nos taux de réussite en première année. Alors, il n'est pas très bon en filière psychologie, mais il n'est pas vraiment meilleur de manière globale. C'est sur les chiffres de 2014-2015, 40% de nouveaux inscrits à l'université en L1, donc qui passent en L2. Donc ça vous donne, par soustraction, le chiffre d'étudiants qui échouent leur première année de psycho ou première année d'une autre filière universitaire. Alors, ça nous a amené à réfléchir forcément, et pas que nous, bien évidemment, à ce constat. Ce qu'on se dit avec des collègues, c'est que finalement, ce qui leur manque, c'est peut-être pas des compétences disciplinaires, des compétences dans les matières qu'on enseigne, mais il y a peut-être quelque chose en fond qui est un petit peu plus sévère, qui est un manque de compétences transversales. Alors, on parle souvent de la qualité des écrits dans les copies, mais il y a certainement d'autres choses qui fait défaut à ces étudiants. Et puis, ces compétences transversales, il serait intéressant que les étudiants soient bien formés et soient compétents, parce que c'est quelque chose qu'ils vont utiliser ensuite dans leur milieu professionnel. Et on nous demande maintenant à l'université également de former et d'insérer sur le plan professionnel. C'est dans les nouvelles missions en fait, de l'université. Alors, ces compétences transversales, quand on cherche à les définir, le mode de définition le plus simple, c'est de dire que c'est tout ce qui n'est pas disciplinaire. Donc ça, c'est relativement simple. Quand on regarde dans la littérature, alors moi c'est pas mon domaine, hein, je ne viens pas des sciences de l'éducation, donc c'est pas des choses que je connais très très bien, mais quand on lit des travaux, on tombe sur des définitions plus complexes, donc un savoir-faire ou un savoir-agir complexe, donc qui prend appui sur mobilisation et combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Donc je vous montrerai tout à l'heure quelques petits exemples. Donc ça, ce sont des travaux qu'on trouve au Québec principalement, qui montrent que la définition n'est pas si simple. Bon, en gros, on peut revenir quand même à quelque chose qui est général et qui n'est pas dans un ancrage disciplinaire ou dans un cadre professionnel très, très, très strict. Alors, si on regarde justement sur les travaux au Québec, là, on trouve des catégories de compétences. Donc, le programme au Québec a été, notamment en école primaire, a été basé sur l'apprentissage de ces compétences plutôt que sur des approches disciplinaires, début des années 2000. Je crois qu'ils sont revenus un petit peu sur la question, mais bon, il reste quand même ces compétences à acquérir. Donc elles sont catégorisées, donc des compétences d'ordre intellectuel, des compétences d'ordre méthodologique, au niveau des interactions sociales, ce qui est quelque chose d'important, et en termes de communication par exemple. Donc vous avez ces 9 catégories, là, ces 9 compétences, 4 catégories et 9 compétences, qui sont dans les programmes au Québec à partir des années 2000. Si vous allez sur d'autres niveaux d'études, vous allez trouver des catégories un petit peu différentes et puis des compétences forcément qui évoluent. Donc là, c'est pour des étudiants au niveau universitaire. Donc vous voyez qu'il y a d'autres aspects, responsabilité, résilience, prise de risque, créativité, des choses qu'on ne demande pas forcément sur des niveaux chez des petits en primaire. Et puis, ce qui explique un petit peu pourquoi la définition que je vous ai donnée tout à l'heure n'était pas simple, c'est que ces compétences transversales, selon l'endroit où on va se trouver, effectivement, la définition n'est pas tout à fait similaire. La traduction dans le domaine professionnel n'est pas similaire. Par exemple, communiquer de façon appropriée, selon le secteur professionnel dans lequel vous allez être, communiquer, ça peut être par un poster, ça peut être à l'oral, ça peut être par un écrit extrêmement précis. Donc là, vous avez un exemple. Si vous êtes dans un colloque en physique, et vous faites un poster ou vous faites une communication devant des collègues. Si vous êtes en droit, ça va être des textes qu'il ne faut surtout pas manquer. Et puis, si vous êtes en médecine, ça va être communiquer avec un patient ou avec la famille du patient. Et forcément, c'est encore autre chose. Alors, à notre niveau, là, j'ai une petite diapo aussi sur quelque chose qui a été fait dans un lycée pour revenir un peu en France. À Brest, il y a quelques années, donc je ne suis pas renseigné, j'aurais dû le faire sur l'état d'avancement de ce projet. Donc là, c'était 12 compétences qui avaient été identifiées, et le projet s'adressait à des étudiants de terminale, de façon certainement les préparer un petit peu aux études universitaires. Donc, à notre niveau, vous allez voir qu'on a identifié un nombre de compétences, on s'est restreint à un nombre de compétences plus limité, déjà parce qu'on est une petite équipe de collègues pour commencer, peut-être ça s'étendra dans le futur. Mais l'objectif, ça a été de travailler sur les étudiants de licence, donc notre cœur de cible, c'est vraiment nos étudiants à nous. Et puis, par extension, on s'est dit que tout ce qu'on allait créer allait s'appliquer en fait à des étudiants de lycée. Donc on travaillerait en fait à du positionnement en licence 1 pour des primo-arrivants, pour essayer de repérer directement des étudiants qui vont être en situation de difficulté, qui sont fragiles et probablement qui sont ceux qui vont échouer dans nos disciplines. Et puis à partir de ces positionnements, proposer des parcours adaptés, ça se fait dans certaines filières, ou bien surtout proposer des remédiations et peut-être dans les MTU. Les MTU sont les TD de méthode et travail universitaire, dans lesquels, en général, on ne sait pas trop quoi faire. On a du mal à trouver des vacataires pour meubler un peu les créneaux. Et puis, voilà, les enseignants statutaires, pratiquement, n'enseignent jamais dans ces MTU. Donc, ce qui est un peu dommage, parce que finalement, c'est là qu'on pourrait certainement aider les étudiants. Donc, ça, c'est pour la partie licence. Et puis, l'objectif du projet par résonance, c'est d'intervenir également peut-être dans les lycées. Donc, dans les lycées, il y a des AP, donc des accompagnements personnalisés. Ce sont des heures spécifiques en terminale. Et pareil, pour avoir discuté avec quelques collègues de lycée, en général, le prof ne sait pas forcément trop quoi faire là-dedans. Et il arrive que finalement, il utilise les créneaux pour faire du renforcement disciplinaire. Donc, on n'est pas sur de l'accompagnement personnalisé, on est plutôt sur un plus sur une discipline. Voilà. Alors, ce projet, il a été démarré en fait à l'Université de Rouen cette année, soutenu par notre appel à projet BQE, donc c'est bonus qualité enseignement. Et puis à partir de septembre, on travaillera avec le soutien de l'UNICIEL et de l'UOH. L'UOH nous avait sollicité en fait pour travailler là-dessus. Et puis c'est l'UNICIEL finalement qui a aidé le démarrage, qui aide le démarrage du projet. Alors, les domaines qu'on a identifiés pour nous dans un premier temps, parce que comme on a vu, il y en a plein, c'est de se dire que si nos étudiants étaient à même déjà de trouver de l'information sur des documents, éventuellement des documents de cours, d'utiliser cette information pour la synthétiser, ce serait intéressant. S'ils pouvaient reproduire un raisonnement, c'est-à-dire pas forcément trouver un raisonnement par eux-mêmes ou découvrir une logique par eux-mêmes, mais au moins reproduire quelque chose qu'on leur a montré, ce serait aussi pas mal pour certains. Et puis ensuite, on a deux autres domaines qui seraient s'organiser, savoir s'organiser et puis être autonome, parce que la transition lycée-université, c'est souvent, elle est critiquée un peu durement à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il passe d'une classe avec un encadrement à un grand amphi avec beaucoup de liberté. Et dernier domaine, la motivation à entreprendre des études dans le supérieur, parce que on a aussi des publics, c'est le cas notamment en filière psychologie, où les étudiants viennent chez nous attendre autre chose. Forcément, ils échouent, mais en fait, ils ne sont pas là pour réussir. Ils attendent de passer un concours IFSI, concours d'infirmier, ou un concours d'EDUCSP ou d'EDUC jeunes enfants. Ils viennent prendre de l'expérience, éventuellement acquérir des connaissances disciplinaires, mais leur objectif, ce n'est pas de réussir chez nous. Donc ça, c'est pareil, on imaginait que c'était quand même assez intéressant de le savoir et de pouvoir le tester. Alors bien sûr, là-dessus, il manque plein de choses. Hein. Il manque les compétences transversales peut-être en langue française, les compétences dans le domaine du numérique, les compétences en termes d'interaction sociale. Donc il manque plein de choses, mais ça peut être évalué par ailleurs. Donc le français, il y a un projet au niveau de l'UOH pour évaluer ça. Le numérique, on a les certifications. La langue anglaise, on a le CLES aussi, on a une certification. Donc voilà, là on s'est concentré sur des choses qui pour nous, dans l'immédiat, avaient un petit peu de sens. Donc on a réfléchi avec des collègues à ce qui pourrait être utilisé comme type de test, déjà ce qui existait puisqu'on pourrait éventuellement adapter, pour déployer ça à grande échelle, parce qu'on a des publics, le L1 de Psycho à Rouen c'est 600 étudiants, donc il faut pouvoir travailler justement avec du numérique de façon automatisée un petit peu le décodage sur un certain nombre de ces domaines. Alors, trouver l'information, on a essayé de réfléchir justement sur du non-disciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des exercices qui ne sont pas des exercices de chimie ou des exercices de maths ou de français. Donc, des documents, tout type de documents, dans lesquels les étudiants devraient être à même d'extraire une info. Alors, ça peut être une échelle, ça peut être un taux de chômage, ça peut être des années, ça peut être une tendance sur une courbe, etc. Alors, on s'oriente déjà un petit peu sur du disciplinaire, hein, forcément, interpréter une courbe, je pense que les étudiants qui sortent d'une filière scientifique auront un petit peu moins de difficultés que des étudiants qui sortent d'une filière littéraire. Mais on s'est vraiment rendu compte en travaillant là-dessus que décorréler le disciplinaire et puis les compétences transversales, ce n'est pas un exercice qui est facile. Dans certains cas, ça l'est, dans l'autre, c'est vraiment un petit peu plus compliqué. Donc là, voilà, par exemple, on envisage de travailler sur ce type de courbe et puis poser des questions extrêmement simples sur les échelles et puis des questions un petit peu plus compliquées sur des projections de données, sur des tendances, etc. Alors pour varier un peu les types de supports, hein, on travaillerait également sur des tableaux. On a prévu de travailler sur des informations à trouver sur des pages internet, donc aller sur une page Wikipédia, puis trouver une information dans un texte. Donc essayer de varier un petit peu les supports, ça peut être une peinture, ça peut être bref, tout un tas de choses. Donc ça c'est pour le premier domaine, trouver de l'information. C'est à mon avis pas si simple pour un certain nombre de nos étudiants. Deuxième domaine, c'est utiliser et synthétiser de l'information. Alors ça, il existe des tests qui sont utilisés en psychologie, notamment dans le domaine des RH, des ressources humaines, qui permettent d'évaluer des aptitudes intellectuelles. Alors pour le coup, ce n'est pas forcément le bon terme. Mais les tests sont composés de la manière suivante. Vous avez un lot d'informations qui est donné en deux temps. Et en fait, ces deux lots d'informations vous permettent d'en extraire une troisième. C'est-à-dire que la réponse à la question qui vous est posée, elle n'est pas dans la première info, elle n'est pas dans la deuxième info, elle est en fait dans la synthèse que vous êtes capable de faire à partir des deux lots d'informations. Donc on peut avoir ce type de test en trois déclinaisons verbales, c'est-à-dire que vous avez deux textes à lire et puis une réponse verbale à donner, des informations numériques ou bien des informations abstraites avec des figures. Vous avez peut-être déjà vu des tests avec des figures, là ça se passe notamment dans les concours IFSI pour le recrutement. Donc ça, ce serait le deuxième domaine. Troisième domaine, reproduire une logique ou un raisonnement. Là, l'idée, ce n'est pas que les étudiants la trouvent par eux-mêmes. Alors, on ne cherche pas à regarder les gens qui ont une logique et puis d'autres qui sont un petit peu moins, un esprit logique et d'autres un petit peu moins. Là, le but, c'est on leur montre une façon de faire, un raisonnement sur un exercice. Donc là, c'est un exemple, hein, ils ne seront pas tous de ce type-là, mais c'est un exemple. Et ensuite, on donne le même type d'exercice, on demande de reproduire la consigne. Donc, pareil, voir s'ils sont capables d'adapter... à des données un tout petit peu différentes, un raisonnement qu'on a donné. Donc là, c'est un exercice de déduction avec quelques informations qu'il faut placer et puis il faut retrouver quel est le métier de chaque personne à partir d'un petit tableau. Donc là, on envisage une voix off et puis une petite démo en vidéo, par exemple. L'étudiant regarde ça et puis juste derrière, on lui pose le problème et là, c'est lui qui doit réussir à donner sur un exercice qui peut être de très simple à beaucoup plus compliqué, pareil, de façon à évaluer un petit peu une gamme de compétences. Quatrième domaine, c'est s'organiser, être autonome. Donc là, on a plusieurs types d'exercices envisagés. Donc par exemple, regarder avec des emplois du temps extraits de leur AD Campus. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je ne vais pas à un cours dans la semaine? Est-ce que je vais pouvoir le rattraper avec les autres sections? Parce que les cours sont faits plusieurs fois dans la semaine par les enseignants. Donc si je ne vais pas à ce cours-là, je pourrais le rattraper demain, ce n'est pas très grave. Sauf qu'en fait, si on le rattrape le lendemain, ça empêche d'aller à un deuxième cours que lui, on ne pourra rattraper nulle part du fait du jeu des emplois du temps. Et donc ça, c'est aussi des questions qu'on peut leur demander de faire. Certains étudiants, en fait, se débrouillent très très bien avec ça, jonglent intellectuellement et savent exactement où ils peuvent aller sans perdre d'informations. Pour d'autres, ils ne se rendent pas compte des conséquences. Ils font un choix à un coup et puis derrière, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont perdu. Donc ça peut être ce type d'exercice, ça peut être s'organiser sur les horaires des BU, sur les horaires de plein de choses. Être autonome, il y a une échelle de procrastination académique qui a été publiée il y a quelques temps avec un travail. Alors, le travail était sur les étudiants, je pense qu'on pourrait essayer de le mener sur des enseignants-chercheurs, ça pourrait être sympa. Et donc vous voyez, vous avez ce type de questions là avec « je gaspille un temps important sur des petites choses avant de me mettre au travail » et puis vous dites « c'est tout à fait moi » ou « c'est pas du tout moi » puis il y a un gradient. Et donc quand vous répondez à ces questions, ça vous donne ensuite un taux de procrastination. Dernier domaine, c'est la motivation à entreprendre des études dans le supérieur. Donc là, c'est aussi en lien avec des travaux qui ont été publiés. Donc on envisage de reprendre une échelle et puis de l'adapter un petit peu. Ça permet de tester la motivation. Alors soit vous êtes en absence complète de motivation pour les études que vous faites, soit il y a une forte motivation intrinsèque, c'est-à-dire que vous prenez du plaisir à apprendre, vous prenez du plaisir à relever des défis, ou bien vous faites les choses parce qu'il y a une contrainte externe. Donc ça, c'est plutôt les types de motivation extrinsèques. Papa et maman veulent que je réussisse mes études, ou alors si je les réussis, ça me permettra d'avoir un travail qui me convient, etc. Donc on peut tester, pareil, avec des échelles, ce type de motivation, et on envisage que ça pourrait être en lien avec les réussites à l'université. Voilà, donc les apports du numérique là-dedans, bah, c'est que à la fois pour les publics lycéens en pré-APB qu'on ne voit pas à l'université, ou bien les publics étudiants, donc là on a à l'université mais en très grand nombre, ce serait d'automatiser en grande partie tous ces tests, et puis ensuite d'identifier des petits lots d'étudiants sur lesquels on pourrait intervenir en présentiel dans les ateliers pédagogiques personnalisés ou bien dans les MTU. Voilà, donc ça pose pas mal de questions, qu'on peut peut-être discuter là maintenant, puisque j'ai terminé. Terme éthique sur les retours qu'on fait aux étudiants, parce qu'il y a peut-être un moment donné où la réponse à tous les tests, ça va être vos compétences sont très très limitées, ça va être dur à l'université, et on ne peut pas renvoyer ça directement dans la figure d'un étudiant. Donc je pense que là, il y a pas mal de choses qu'on est en train d'essayer de travailler sur le comment dans le projet. Merci.
Voilà, merci pour l'invitation.